Signe des temps, Marc Wetzmann.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. À l'heure du déconfinement, tandis que pour des raisons de survie certes compréhensibles, éditeurs et libraires se ruent sur les best-sellers annoncés pour sauver la culture et que les écrivains cherchent une place sociale dans le monde d'après, pourquoi ne pas tenter de nager un peu à contre-courant, renouer avec la littérature et ouvrir par exemple une nouvelle de Roberto Bolaño ? Mort en 2003 à l'âge de 50 ans, Roberto Bolaño est un écrivain chilien surtout connu pour ses deux énormes romans, Les Détectives Sauvages et 2666, deux romans qui sont devenus depuis leur publication de véritables mythes et dont le succès international ne cesse de croître. Son éditeur espagnol, Jorge Herralde, disait d'ailleurs de Bolaño qu'il était un classique du XXe siècle. Il se trouve que pour la première fois en ce moment, les éditions de l'Olivier publient les œuvres complètes de Bolaño, ce qui nous permet de découvrir l'œuvre protéiforme de cet écrivain, héritier de Borges comme de William Burroughs, et qui mêle poésie, autofiction, romans épiques et noirs et postmodernisme aux accents d'apocalypse. Écrire pour Bolaño était non amitié, mais une activité dangereuse, politique, mais aussi transcendante. Il s'était donné pour ambition d'inventer une nouvelle littérature, une littérature d'ouragan observée aux confins inaccessibles de la Terre, selon sa formule, une littérature seule capable, selon lui, de rendre compte du monde multiforme et imprévisible qui est le nôtre, et qu'il jugeait au bord de l'abîme. C'est donc un écrivain d'aujourd'hui. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, Olivier Cohen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'éditeur de ces œuvres complètes, on va en parler dans un instant. Mélina Balcazar, bonjour.
Bonjour Marc.
Vous êtes docteur en littérature à la Sorbonne Nouvelle et traductrice et vous avez coordonné avec Anne Picard le numéro de la revue Europe consacré à Roberto Bolaño. Et Philippe Lançon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes critique à Libération et bien sûr auteur du Lambeau. On ne vous présente plus. Je vais commencer par Olivier Cohen. Cette publication, alors d'abord, est-ce que vous pouvez en dire deux mots? Comment ça s'est fait et quelle était pour vous la nécessité de publier ces œuvres complètes qui contiennent un certain nombre d'inédits?
Oui, alors pour la faire courte, d'abord oui. Je voudrais rendre hommage à Christian et Dominique Bourgois qui ont été les éditeurs de Roberto Bolaño pendant 20 ans et qui ont publié la plupart de ses livres en France. Mm-hmm. Il se trouve qu'il y a maintenant 4 ans, si je ne me trompe, Christian Bourgois, éditeur, a perdu les droits des œuvres de Bolaño et que sa famille, la famille de Bolaño, a souhaité un autre éditeur prenne le relais et publie les œuvres complètes de Bolaño. Et donc j'ai saisi la balle au bond, d'autant que je venais de découvrir que Bolaño n'était pas seulement un immense romancier, mais un très grand poète. Mmh. Et c'est pourquoi sur les 6 volumes qui vont totaliser, je crois, à peu près 8000 pages quand même, oui, de ses œuvres complètes. Le premier volume, qui est paru au mois de mars, contient, je crois, 700 pages de poèmes, dont la plupart sont inédits. Alors, mm-hmm, c'est ça aussi l'élément important, je crois, qu'il faut souligner, c'est cette édition des œuvres complètes de Roberto Bolaño, c'est l'importance donnée à son œuvre poétique qui est capital. Et puis l'autre aspect, qui me paraît aussi très, très significatif, et qui d'ailleurs a été souligné, et ça m'a fait très plaisir, par Enrique Villamata, c'est que ça n'est pas une édition savante, c'est une édition qui mêle les genres et qui ne suit pas l'ordre chronologique.
Qui ne suit pas l'ordre chronologique, oui. C'est un choix.
Voilà. Voilà. C'est-à-dire, autrement dit, dans chacun des volumes, on trouvera presque dans chacun des volumes, puisque les deux derniers sont les deux gros romans que vous avez cités, 2666 et Les Détectives Sauvages, qui chacun occupe un volume. Mais dans les 4 autres volumes, il y a un mélange de poèmes, de nouvelles, de récits personnels, de romans, d'ébauches de romans, et avec, je le rappelle une fois de plus, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inédits.
Oui, alors la taille des volumes peut rebuter, hein, parce qu'ils vont quand même chacun plus de 1000 pages, et en grand format, mais on y découvre quand même des choses extraordinaires. Oui. Effectivement, il y a plus de 600 pages de poèmes dans le premier volume, hein, l'Université inconnue, dont on se rend compte que ces poèmes sont la source, pour une bonne part, de des fictions qui vont suivre. Et il y a aussi beaucoup de récits courts, qui sont, pour certains connus, et pour d'autres pas du tout, hein. Les trois petites novella Vie de Anne Amour, chacune de ces novellas est une splendeur totale. Étoile distante, qui est un formidable portrait de tueur poète, sur lequel on va revenir d'ailleurs. Et puis Appel téléphonique et autres histoires, qui sont des textes plus ou moins autobiographiques, plus ou moins des portraits de gens, souvent de femmes, hantées par la folie ou par l'errance. Enfin, c'est des textes à la fois profondément latino-américains et en même temps totalement universel. Philippe Lançon, vous avez écrit sur ces livres, et vous avez connu, vous avez rencontré Roberto Bolaño, vous l'avez interviewé pour Libération. Vous redécouvrez ces textes, vous les connaissiez déjà pour la plupart, j'imagine.
Oui, je les connaissais. Enfin, je crois à peu près tous, parce que soit je les avais lus en français, donc dans les éditions de Bourgois à l'époque, et là je les relis. C'est toujours bien quand il y a une. Vous voyez, il y a les affaires d'édition, mais finalement, une nouvelle édition permet évidemment à des nouveaux lecteurs de découvrir, et aux anciens de se rajeunir et de sentir qu'ils ont vieilli en même temps. Mmh. Et puis j'avais lu aussi beaucoup en espagnol, en particulier ses poèmes.
Hein, oui.
Dans des éditions espagnoles. Mmh. Donc je suis entièrement d'accord avec Olivier Cohen, c'est-à-dire que la poésie a été fondamentale jusqu'au bout pour lui, à la fois comme auteur et comme lecteur. Ses romans, ses nouvelles sont truffés de présence poétique, soit à la fois dans le ton du récit à certains moments, soit plus directement par des allusions directes ou indirectes à des poètes qu'il aimait.
Les récits,
beaucoup de poètes français d'ailleurs souvent.
Oui. Les récits sont poétiques et les poèmes sont souvent narratifs. Avec une bonne dose de considération personnelle, ce qui fait qu'on a vraiment l'impression d'aller à la rencontre d'une œuvre, mais aussi de quelqu'un, quelque chose de très personnel à chaque fois dans ce qu'il écrit. Et vous dites dans un de vos articles, Philippe Lançon, que Bolaño n'a apporté aucune réponse aux questions que se posaient ceux qui l'ont croisé, mais il semble leur avoir donné ou rappelé le sens du combat. Est-ce que vous pouvez commenter de quel combat s'agit-il ?
C'est-à-dire qu'en fait, le sens du combat, à mon avis, nos amis vont en parler, c'est la quête. C'est-à-dire que, pour moi en tout cas, c'est un écrivain fondamentalement épique, mais en même temps dans une période où il est bien difficile de croire dans l'épopée. Et donc en fait, tout son travail qui a correspondu à sa vie, c'est comment continuer d'y croire, parce que la quête est quelque chose de fondamental, c'est ce qui détermine un homme, c'est-à-dire finalement comme un enfant, la recherche permanente d'un trésor qui dans son cas probablement niche au cœur du cœur de la littérature, mais cette littérature fait miroiter toujours des tas de choses qu'on n'atteint jamais dans la vie, vous voyez. Donc il y a ça, et d'autre part dans un monde qui est déterminé par l'horreur et par le mal.
Oui.
Donc d'ailleurs il y a, si je peux citer juste quelque chose, il y a un texte de lui, un poème qui était un poète qui était très important pour lui, c'était Baudelaire. Et en particulier un poème qui s'appelle Le Voyage. Et il y a une strophe qu'il cite dans un texte qu'il a écrit à la fin de sa vie qui s'appelle Littérature plus maladie égale maladie. Et il dit ça, il dit, donc il cite la strophe, amer savoir celui qu'on tire du voyage, Bolaño est quelqu'un qui a énormément voyagé dans la première partie de sa vie. Le monde monotone et petit aujourd'hui, hier, demain, toujours, nous fait voir notre image, une oasis d'horreur dans un désert d'ennui.
Voilà.
Et Bolaño écrit, avec ces vers, en vérité, nous avons plus qu'il ne nous en faut. Au milieu d'un désert d'ennui, une oasis d'horreur, il n'y a pas de diagnostic plus lucide pour exprimer la maladie de l'homme moderne.
Voilà. Oui, oui.
Et je pense que, vous voyez, si on ajoute à ça une très très forte dose d'humour, de dérision et d'autodérision, je crois qu'on peut rentrer avec lui dans cette épopée qui dégage en même temps un très fort sentiment de familiarité. C'est-à-dire que je parlais de la présence des poètes, ce qui est extraordinaire pour moi, qui a toujours tout de suite été extraordinaire à la lecture de son travail. C'est la familiarité qui s'en dégageait. Même quand je connaissais pas les poètes dont il parlait, j'avais l'impression que c'était des espèces d'amis ou de types que j'aurais pu croiser dans un bar la veille ou il y a 20 ans et qui étaient là avec moi, voyez, et qui la ramenaient pas en quelque sorte.
Oui, c'est ça. Il y a une sorte d'ambition et de modestie dans ces textes. C'est ce que vous dites sur la modernité, enfin l'oasis d'horreur dans un désert d'ennui, et ce qui caractérise l'homme moderne. C'est une des choses qui rend l'œuvre de Bolaño extrêmement contemporaine aujourd'hui, non? Mélina Balcazar, vous n'avez encore rien dit.
Moi, je voudrais ajouter à ce qui vient de dire Philippe Linson sur le sens du combat qu'on trouve en effet dans l'œuvre de Bolaño. Moi, j'ajouterais aussi que c'est un combat évidemment littéraire, mais politique aussi, parce que Bolaño a lutté à l'instar de Borges, pour trouver sa place dans la littérature. Et du monde, dans le monde, mais aussi dans la littérature. C'est-à-dire, il avait ce sens de construire un camp. C'est-à-dire, il avait son camp, ses poètes, comme Nicanor Parra, comme Borges. C'est-à-dire, il avait son clan, son propre canon, et il nous invite à faire de même. Mais il voulait s'imposer. Je pense que c'est important de le rappeler, en tant que latino-américain. Mais pas parce qu'il avait des visées ou des rêves nationalistes. Au contraire, il était tout à fait critique. Il était tout le temps critique de tout nationalisme. Mais il voulait trouver une place en tant que latino-américain en exil.
Oui.
C'est-à-dire un mouvement.
On va y revenir sur la notion d'exil.
Est-ce que justement cette dimension du voyage, c'est-à-dire d'être un mouvement perpétuel. J'aime bien voir Bolaño comme un poète bagarreur, mais aussi comme la bagarre des rues. Comme ça, très.
Et dans le numéro d'Europe que vous consacrez à Roberto Bolaño avec Anne Picard, il y a ce très beau texte de Enrique Villamatas dont je vais citer un extrait. Il parle de Bolaño comme d'un type d'écrivain qui est non seulement courageux et ne pactise à aucun moment avec la vulgarité régnante, mais qui fait preuve d'une authenticité tranchante et qui unit la vie et la littérature avec un naturel absolu. Des types obstinés, très obstinés, qui savent que tout est faux et que de surcroît tout est fini, absolument tout. Des gens qui n'ont rien à voir avec la grisaille des écrivains compétents. C'est un très bon passage. Oui, Olivier Cohen, justement, oui, j'allais vous donner la parole.
Je voulais ajouter quelque chose, parce que c'est drôle d'ailleurs, parce que j'avais relu aussi cette conférence que citait Philippe Lançon tout à l'heure, sur la maladie, et alors j'ai trouvé une phrase que Philippe cite d'ailleurs dans un de ses articles. Et il parle, ou Bolaño parle de Kafka. Et d'ailleurs, au passage, je pense vraiment, et je crois qu'on est tous convaincus ici, que Bolaño est un auteur de la classe des très grands comme Kafka ou Joyce ou Virginia Woolf. C'est vraiment un écrivain très, très, très grand. Et voilà ce que Bolaño écrit. Kafka comprenait que les voyages, le sexe et les livres sont des chemins qui ne mènent nulle part. Et que cependant, ce sont les chemins sur lesquels il faut se lancer et se perdre pour se trouver de nouveau ou pour trouver quelque chose, peu importe quoi, un livre, un geste, un objet perdu, pour trouver quelque chose, peut-être un modèle, avec de la chance, du nouveau, ce qui a toujours été là. Alors je trouve que c'est extraordinaire.
Et en fait, combat, je voulais vous poser la question, Olivier Cohen. Est-ce que c'est pas un combat en soi de publier des livres d'une part de cette taille, en particulier en ce moment?
Oui. Merci de le souligner. Oui. Merci de le souligner. Je dois dire que quand on a vu arriver ce qui est en train de se passer en ce moment, aux éditions d'Olivier, on a tous dit il faut sauver Bolaño. Mmh. Parce que c'est vrai que c'est une entreprise compliquée, lourde, coûteuse et qui demande beaucoup de travail, d'investissement, et on est très soutenu, je dois dire, par les libraires et aussi par la presse. Il y a eu j'ai même été surpris de l'enthousiasme avec lequel cette initiative éditoriale a été accueillie par la presse, par des gens extrêmement différents, soit qui connaissaient déjà Bolaño, comme Philippe Lançon, mais beaucoup d'autres aussi, je crois qu'ils l'ont découvert. Et donc, oui, il faut nous aider à aller jusqu'au bout de ces volumes.
C'est ce qu'on essaie.
Dont la parution va s'étendre sur 3 ans.
C'est ce qu'on essaie de faire. On va revenir dans une seconde sur la vie d'abord de Bolaño, quelques éléments, et puis ensuite sur son œuvre. Et auparavant, un poème justement chilien. Qu'ai-je tiré de la lune que nous regardions ensemble? Qu'ai-je tiré des noms imprimés sur le mur? Comme le calendrier change, tout change en ce monde.
Que sacado con la luna, ay, ay, ay. Que los dos miramos juntos, ay, ay, ay. Que sacado con los nombres, ay, ay, ay. Estampados en el muro, ay, ay, ay. Cómo cambia el calendario, ay, ay, ay. Sacado con el lirio, ay, 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 que plantamos en el patio, ay, 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 no era aún el que plantaba, ay, 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 eran dos enamorados, ay, 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 hortelano tu plantillo, ay, ay,
des temps consacré aujourd'hui à Roberto Bolaño avec Olivier Cohen, Mélina Balcazar et Philippe Lançon. Cette chanson est une chanson de Violetta Parra, chantée en l'occurrence par Birds on a Wire et Rosemary Stanley. Violetta Parra est la sœur du poète Nicanor Parra, qui a été très influent au Chili et qui a eu une énorme influence notamment sur Roberto Bolaño. Philippe Lançon.
Oui, là, d'ailleurs, je pense on verra dans un volume ultérieur qui s'appelle Entre parenthèses, qui recueille ses articles, des textes assez merveilleux, en particulier un sur une visite à Nicanor Parra, dont on n'est jamais sûr, on sait qu'elle a eu lieu, mais ce qui relève de la fiction et de tellement le récit est fort, et de la réalité de cette rencontre. Ce qui est important, c'est peut-être de dire, c'est que bon, Nicanor Parra a écrit un court volume qui est Les poèmes et antipoèmes, qui est très très important dans la poésie latino-américaine. Et si vous voulez, Bolaño, il est vraiment, comme on disait, dans la lignée de Borges et de Parra, c'est-à-dire il s'oppose à la figure du poète comme cacique, comme vous voyez, comme caudillo des lettres sud-américaines.
Voilà. Alors il faut,
c'est-à-dire évidemment au Chili c'est Pablo Neruda,
oui.
Mais on pourrait multiplier parce que ça, comme disait Mélina, ça a évidemment une résonance politique très forte. Mm-hmm. Parce que cette figure du poète dominant qui enfle littéralement, vous voyez, qui est le patriarche des lettres, et qu'on retrouve à peu près partout dans les pays d'Amérique latine, en tout cas qu'on trouvait, correspond à une figure politique aussi.
Voilà. Alors c'est
Bolaño, il va évidemment ridiculiser lutter contre ces doubles figures, qui est une figure finalement à la fois de terreur dans les lettres et terreur politique bien sûr, et de domination machiste en quelque sorte. Alors, et donc voilà, donc ça là-dessus il est assez clair, hein, enfin.
Oui, alors c'est pour l'expliciter un peu, je vais donner quelques éléments biographiques rapides, hein, qui ont à voir avec ça justement. Roberto Bolaño, dont je l'ai dit tout à l'heure, est né en 53, son père était transporteur, ancien champion de boxe amateur, sa mère enseignante. La famille a quitté le Chili pour Mexico City en 68, et c'est là que Bolaño, qui était dyslexique, a commencé d'acquérir une espèce d'éducation littéraire autodidacte en fauchant les livres dans les librairies. Ils sont revenus en 73 au Chili, et l'année du coup d'État, et Bolaño est revenu avant le coup d'État pour militer, et voilà ce qu'il dit sur son rapport à la fois à la littérature et à la gauche de cette époque. Il dit « Je cherchais un parti de gauche, mais ils me semblaient tous de droite, en particulier sur le plan des mœurs. Et la tradition littéraire de gauche était celle du plus pur réalisme socialiste, horrible. Même les beatniks locaux étaient faux, complètement décaféinés, et le premier des écrivains nationaux, Pablo Neruda, représentait le patriarche machiste de type Fidel Castro, celui qu'on ne peut jamais virer de son socle, une tradition de pouvoir bien de chez nous. » Voilà, il parle de Neruda comme d'une outre autosatisfaite. Et c'est ça, c'est contre ça qu'il va se former littéralement, et c'est contre ça également que Nicanor Parra écrit d'une certaine façon, puisqu'il s'agit d'écrire une poésie beaucoup plus, au ras des pâquerettes en quelque sorte, beaucoup plus quotidienne, beaucoup plus humble d'une certaine manière. Mélina Balcazar.
Oui, je pense que dans ces panthéons littéraires, dans ces canons littéraires que Bolaño a construit dans son œuvre, on peut aussi ajouter le poète mexicain Mario Santiago Papasquiaro, qui a été, qui a inspiré Bolaño pour créer ce personnage de Ulysses Lima dans Les Détectives Sauvages.
Oui.
C'est-à-dire, c'est vraiment Mario Santiago Papasquiaro, il a trouvé une deuxième vie, une vie disons éternelle dans l'œuvre de Bolaño, alors que au Mexique il était perçu presque comme un clochard. Cette idée du poète qui est à la limite un clochard, qui est dans la bohème, qui refuse tout compromis avec les pouvoirs politiques, est très importante chez Bolaño. On le voit aussi dans les œuvres complètes, dans le premier volume des œuvres complètes. Il y a aussi ce très beau et roman court à Muleto, où on voit cette poétesse uruguayenne et qui reste enfermée dans les toilettes pendant la
répression en 68 au Mexico City.
La répression en 68 dans l'université. Donc on voit vraiment ces choix de ces figures poétiques, qui sont des figures politiques aussi,
mais qui font un pas de côté.
Qui font un pas de côté, et qui, justement, pour revenir juste par rapport à la question de cette poésie qui refuse d'être grandiloquente, qui refuse de chanter une cause aussi, parce que Bolaño est aussi très critique de la gauche, je pense qu'il cherchait une poésie vraiment près du quotidien, prosaïque, il disait. Lyrisme est prosaïque, mon lyrisme est différent. C'est-à-dire, pour lui, ce qui était important, Olivier Cohen le disait à l'instant, c'est cette configuration de écriture et vie. Mais c'est pas la grande vie, comme ça, une vie romanesque, c'est la vie la plus banale, la plus quotidienne, ce qu'on voit dans sa poésie. C'est-à-dire, c'est ce qu'il faut préserver, et ce qui était sacrifié pendant pendant les dictatures ou pendant tous les la guerre sale, par exemple au Mexique, ce qui était sacrifié, c'était vraiment cette vie banale, cette vie de tous les jours, vraiment quotidienne, de jeunes qui sont voués à des causes. Donc, et pour Bologne, je pense que c'est cette vie qu'on doit préserver, ce qui nous fait vraiment en tant que, ce qui nous constitue en tant qu'humain.
Alors, il y a un élément, enfin, il y a une histoire qui raconte ça très bien dans le premier volume, c'est la nouvelle Enquêteur qui parle du coup d'État et de la manière dont Bolaño a été détenu pendant 8 jours, pendant le coup d'État. Et c'est typique de Bolaño, c'est-à-dire que plutôt que de raconter une histoire de répression politique, la nouvelle est un dialogue entre les deux enquêteurs. Dans la réalité, Bolaño a été libéré de prison par hasard parce qu'il a été repéré par deux anciens élèves de l'école qu'il fréquentait, qui l'ont finalement laissé sortir, deux gardiens. Et dans la nouvelle, un des deux enquêteurs emmène l'alter ego de Bolaño à un moment donné. Il se retrouve en face d'un miroir et il ne se reconnaît pas. C'est quelqu'un d'autre qui est là, comme si ce moment de détention avait été un moment de séparation, en quelque sorte, qui va complètement transformé à la fois ce qu'il est et à la fois la suite des événements. Philippe Plançon.
Oui, c'est une nouvelle. Figurez bien des choses. D'abord, elle est quand même parce qu'elle a un aspect très drôle aussi dans ses dialogues, qui rappelle un peu. Ça, c'est presque des personnages de Kafka, quoi. On parlait de Kafka tout à l'heure. D'ailleurs, il a écrit une autre nouvelle qui s'appelle Le policier des souris, et qui est une allusion à une nouvelle de Kafka, la cantatrice d'Héra, je crois. Et oui, il est question d'un flic. Bon, mais pour revenir à cette nouvelle dont vous parlez, la séparation, à mon avis, que Bolaño a éprouvé, elle est liée à la terreur. Il a cru qu'il allait mourir. Donc, je me souviens, parce que c'est une chose dont on avait parlé quand j'étais allé le voir à Barcelone, un mois avant sa mort. Et il m'avait dit, je lui avais parlé de cette nouvelle et de cette histoire, je lui avais demandé de me la raconter. Et il m'avait dit assez drôlement, j'ai passé 8 jours en prison, pas un jour de plus, parce que comme sa réputation commençait à enfler, justement, il me disait, plus ça va, plus je vois que le nombre de jours que j'ai passé en prison augmente dans la presse. donc il m'a fait, c'était 8 jours. Mais pour qui a vécu, a senti passer, comme on disait avant, l'aile de la mort, assez près, ou en tout cas la cru, 8 jours, c'est une éternité. Vous voyez, ça peut être 8 heures, c'est pareil. C'est-à-dire que la question, c'est de l'avoir senti passer, quoi. Et donc, il y a effectivement ces deux policiers qui, parallèlement, ont un dialogue presque absurde. Très quotidien, mais dont la quotidienneté, l'aspect un peu, encore une fois, machiste, latino-américain, etc., rend les choses encore plus effroyables et en même temps très drôles. On retrouve ça dans beaucoup de textes de Bolaño, parce qu'effectivement la vie est comme ça, et en particulier dans des mamans de grande violence, c'est-à-dire que les personnes qui vivent dans cet univers de violence, en l'occurrence les policiers, ceux qui font la répression de Pinochet, etc., continuent, eux, à être dans leur quotidien, puisqu'ils sont du côté du bâton. Et ils continuent à dire, t'as vu, et comment va ta femme, et puis ceci, et puis cela. Mais celui qui va recevoir le coup de bâton, ou la gégène, ou qui va crever, lui, il n'est pas dans le quotidien.
Oui, bien sûr.
Vous voyez ?
Bien sûr.
Et lui, il nous fait très bien sentir ça.
Alors, ce qui est intéressant dans cette nouvelle, c'est que, de certaine manière, Bolaño ne sera plus jamais dans le quotidien, de certaine façon. Il va quitter l'Amérique latine en 77 définitivement, pour errer en France, en Belgique, en Italie, en Portugal, ou en Suède, et puis finalement en Espagne, où il va faire toutes sortes de petits boulots. Il va être ramasseur de poubelles, plongeur, et plus notablement veilleur de nuit dans un camping près de Barcelone. C'est de là qu'il va commencer à écrire réécrire en quelque sorte. Et s'il y a quelque chose dans ces années-là, entre 77 et 80, il y a quelque chose, il y a une sorte de c'est une vie qui n'est pas seulement imposée, c'est une vie qu'il recherche d'une certaine manière. Il dira plus tard à propos de cette période, ma maladie en ce temps-là, c'était l'orgueil, la rage et la violence. Ces choses sont épuisantes et je passais mes journées inutilement fatiguées. La nuit, je travaillais. Dans la journée, j'écrivais et je lisais. Je ne dormais jamais. Le mépris que j'éprouvais pour la soi-disant littérature officielle était grand, bien qu'un petit peu plus grand seulement que mon mépris pour la littérature marginale. Donc Olivier Cohen, c'est quelqu'un d'extrêmement... c'est une figure très, très radicale.
Oui, oui. C'est extrêmement, extrêmement frappant quand on lit ses textes et parallèlement à sa biographie, et on est constamment surpris. Par exemple, c'est en relisant dans le tome 2 un texte que j'avais pas lu depuis très longtemps, qui s'appelle Des putains meurtrières,
oui.
J'ai découvert que sa familiarité est beaucoup plus grande que je le pensais avec ce qu'on pourrait appeler l'avant-garde française ou francophone des années 70. À un moment donné, il raconte qu'il trouve chez un bouquiniste une revue qui s'appelle Luna Park, dirigée par Marc Dachy. Mm-hmm. Il lit un texte de Sophie Podolsky. Et alors là, ça m'a donné la chair de poule parce que je connaissais très bien Marc Dachy. Mm-hmm. Je lisais cette revue. J'étais un fan de Sophie Podolsky. Il parle de Michel Bulto aussi. Mm-hmm. C'est-à-dire des gens qui représentaient non pas une avant-garde officielle, mais une sorte de marginalité. Je crois qu'il aimait bien ce mot, une marginalité beatnik. C'était pour lui un peu les François Villon de notre époque, si vous voulez, hein, des gens comme ça qui n'avaient pas de statut social fixe et qui vivaient au jour le jour. Et je pense que finalement un des grands thèmes de son œuvre. Il y a toujours une question d'initiation. Alors, il y a l'initiation à l'amour, il y a l'initiation à l'amitié, mais il y a l'initiation à la vie de poète, bien sûr. Mmh. Et c'est peut-être un des éléments les plus émouvants de l'œuvre de Bolaño, c'est son auto-initiation à la vie de poète. Qu'est-ce que c'est que la vie d'un poète? Et il y a une phrase de lui qui m'a toujours fait sourire et qui est, je pense, d'une justesse admirable. Quelqu'un lui avait dit mais au fond comment vous vous définissez? Et alors il avait dit je suis un poète qui écrit des romans pour pouvoir nourrir sa famille. Mm-hmm. Et y a tout là-dedans. Mm-hmm. Pour moi. Mm-hmm. C'est à la fois cette humilité dont il était question, mais aussi un certain orgueil. Je pense que Bolaño avait une assez claire
idée de ce qu'il était,
de l'importance de ce qu'il écrivait,
de ce qu'il faisait. Mais quand on parle de poésie, on a le sentiment de parler quelque chose de finalement d'assez marginal et presque de passé. Mais en réalité, la littérature de Bolaño est extrêmement contemporaine. Elle dit beaucoup de choses du monde dans lequel on est aujourd'hui. Il y a un livre dont il faut parler en plus des putains meurtrières. C'est évidemment la littérature nazie en Amérique latine.
Ah oui. Oui.
C'est un livre qui est clairement décliné de Borges, hein,
et de Martin Schwab.
Et de Martin Schwab, oui, ouais. Tout à fait.
Des vies imaginaires.
Oui. Il s'agit d'imaginer des vies d'écrivains fictifs latino-américains, tous tentés par le nazisme. Ils sont tous grotesques, ils sont tous ridicules. C'est très drôle. Et à la fin, tout de même, il y a un sociopathe, un vrai meurtrier. Je parle de ce livre parce que si amoureux qu'il soit de la littérature, Bolaño avait une grande conscience, me semble-t-il, des ambivalences et des ambiguïtés de la littérature. littérature. Il écrivait à propos de ce livre, les écrivains de la littérature nazie en Amérique ne sont qu'une métaphore du métier d'écrivain de la littérature. À mon sens, il s'agit d'un métier assez misérable, pratiqué par des gens qui sont convaincus qu'il s'agit d'un métier magnifique. Et il y a là un énorme paradoxe, un énorme malentendu. Le métier de l'écriture est un métier peuplé de canailles, ça tout le monde s'en rend plus ou moins compte, mais il est plein d'imbéciles aussi qui ne se rendent pas compte de la fragilité immense des choses, du fait qu'elles ne durent pas, qu'elles sont éphémères. Et une des choses frappantes dans ce livre, c'est l'ambiguïté du rapport à la violence, y compris à la violence politique qu'on retrouvera après dans Étoiles distantes. C'est-à-dire que y a évidemment un jugement politique, mais ça va au-delà. Bolaño prend en compte le fait que une sorte de lien entre la littérature et la violence, non? Comme a pu le faire aussi Danilo Quiche à sa manière, un autre disciple de Borges,
Philippe Lanson. La violence et la cruauté aussi.
Oui, la violence et la cruauté, absolument.
D'abord, il faut dire que la plupart de ces artistes et poètes à tendance nazie sont des ratés.
Oui.
Donc il y a de toute façon chez Bolaño la figure du le ratage, il est fondamental, il est consubstantiel à la littérature, et par rapport à ce qu'on disait de sa propre vie, lui-même il a senti aussi il a vécu longtemps avec l'idée du ratage. Lui-même était raté. Mmh. Vous voyez, du ratage. Mmh. Et donc ça c'est fondamental. Et là, cette chose que lui-même a éprouvée, il l'applique à des monstres. Mmh. Et à des monstres assez ridicules. Je me souviens toujours d'un parti. Je crois que c'est un poète noir haïtien qui rêve de construire une fraternité aryenne. Mm-hmm. Vous voyez, il y a des choses comme ça, mais totalement absurdes, enfin extrêmement, mais très très drôles hein, quand même. Et donc, ces personnages sont, en fait, ils sont kitsch.
Ils sont kitsch.
Oui, et chez les dictateurs.
Mais ils sont très. En même temps, ils sont très. Ils sont très crédibles quand on voit ce qui circule sur le net. Enfin, on n'est pas.
Ah oui, bien sûr. Oui, oui. C'est-à-dire, c'est des gens qui suivent jusqu'au bout les aventures de leur imagination.
C'est ça.
Donc ils sont tout à fait extraordinaires. Donc et ils traitent ça effectivement donc très inspiré par Borges et par Schwab, c'est-à-dire sur des modèles courts, c'est des textes courts, mm-hmm. très concentrés, mm-hmm. Qui sont comme presque des fiches, je dirais pas des fiches cuisine, mais vous voyez c'est des très courtes biographies. C'est vraiment ce que après dans un autre genre Jean Echenoz, l'écrivain français, a appelé des vies et pas des biographies, vous voyez. Mm-hmm. Et dans les vies, en fait, il y a quelques moments, c'est Borges hein, qui parlait de ça. En fait, ça consiste à prendre 4 ou 5 moments essentiels d'une vie et concentrer la vie sur ça. Oui. Et donc là, voilà, il leur donne ce sens. Et c'est aussi la figure, donc je disais des ratés, et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, des poètes mineurs. C'est-à-dire, en fait, pour Bolaño, même il n'y a de poète que mineur. Même les grands poètes, parce que ils sont toujours dans une situation qui les rend marginaux et qui en fait des personnages qui ne peuvent pas être sur le socle.
Mais qui peuvent être, mais qui
comme la statue.
Mais
ils sont pas au centre du jardin.
Ils sont mineurs, ils sont
dans un buisson.
C'est ça, mais ils peuvent s'avérer dangereux. En lisant la littérature nazie en Amérique, moi j'ai pensé à Danilo Quiche, en particulier au livre des Rois et des Sceaux, qui est l'histoire du protocole des sages de Sion. Tout est vrai, mais c'est raconté comme un conte fantastique. Et Danilo Quiche lui aussi s'inspirait de Borges, hein, et lui aussi montre comment des personnages de second rôle ou de troisième ordre ou des personnages mineurs peuvent avoir finalement une influence considérable sur le cours des choses, puisque en l'occurrence le protocole des sages de Sion va être d'une importance capitale pour la suite.
Mais Hitler a commencé par être un personnage mineur.
Tout à fait.
Un artiste tout à fait mineur.
Mélina Balcazar.
Oui, je voudrais peut-être nuancer un tout petit peu ce qu'on est en train de dire. Parce qu'il fait une distinction entre ces poètes de imaginaire dans les littératures nazies en Amérique et après avec Étoiles distantes, avec ces personnages qu'il tire de justement de cette anthologie fictive, il y a une distinction, il me semble. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a il partage ses ratés comme les autres personnages des poètes dans ces livres, mais en fait je pense que Bolaño dénonce le fait qu'ils se prennent au sérieux. Mmh. C'est-à-dire, ils pensent, ils sont grandiloquents. Oui. Ils pensent que vraiment, ils peuvent changer le monde, qu'ils peuvent changer la vision de la société, qu'ils peuvent changer la société même par, soit par une purification, raciale, que ce qu'on voit dans, dans la dictature nazie en Amérique avec, plusieurs des personnages, mais aussi, je pense que Bolaño pointe le fait que ils sont, il n'y a pas une coïncidence entre ce qu'ils écrivent et ce qu'ils vivent. Mmh. C'est-à-dire, pour Bolaño, c'est une exigence éthique, hein. C'est-à-dire que le fait que si on écrit, si on écrit une littérature, je sais pas, sale ou trash, bah, faut être trash. Faut être comme ça. Faut, si on écrit sur, sur l'exil et tout, bah, faut le vivre. C'est-à-dire, on peut pas vivre dans ce décalage. On le voit très bien, il me semble, dans Étoiles distantes. Dans, il y a deux poètes, il y a deux ateliers qui se passent, dans cette petite ville de province, au Chili. Donc il y en a un qui part, qui prend la route et qui se perd dans l'Amérique latine, dans les luttes de l'Amérique latine.
Oui.
Et il y en a un autre qui va en France et qui vit en Europe et qui a une vie bourgeoise, mais qui parce qu'il y a un moment, parce que quand le destin, comme il dit, se présente à lui, il saisit sa chance, il devient courageux parce qu'il défend une clocharde qui est en train d'être attaquée par des néo-nazis. Et c'est à ce moment-là que Bolaño, le narrateur dit que ce personnage devient un poète, qu'il était poète dans ce fait divers qu'il a même pas écrit, mais il écrit avec sa vie, avec cet acte de courage devant l'histoire.
Alors c'est ce qui caractérise Bolaño. On arrive au terme de cette émission, est-ce qu'on me dit, donc j'en suis bien navré, mais il va falloir finir. Bolaño se tient à mi-chemin entre l'épique et l'apocalypse, hein, entre les détectives sauvages et 2666, et aussi, c'est là-dessus que je voudrais finir, à mi-chemin entre l'ancrage dans l'Amérique latine et une forme d'universel apocalyptique. Olivier Cohen.
Oui, alors, à ce propos, peut-être dans quelques mots, je voudrais rappeler un souvenir. Il y a une dizaine d'années, il y avait une réunion de jeunes auteurs et d'éditeurs à Dublin, en Irlande. Et à la fin de plusieurs jours d'exposés, de lecture, on a demandé à tous ces auteurs, finalement, qui étaient les écrivains qui les influençaient le plus, qui les admiraient le plus. Il y a plus de 10 ans. Eh bien, à ma grande surprise, presque tous ont cité deux auteurs, David Foster Wallace et Roberto Bolaño, qui l'un et l'autre étaient en train de devenir des légendes, probablement aussi parce qu'ils étaient morts jeunes et malades, etc. Donc, c'était un peu le côté, vous voyez, les stars du rock'n'roll littéraire, mort trop tôt. Mais au-delà de ce côté un petit peu vulgaire, il y avait manifestement quelque chose d'universel. C'est-à-dire des Américains, des Espagnols, bien sûr,
Italiens, qui se retrouvaient là.
Des Allemands. Pour eux, Bolaño, c'était comme une sorte de point de repère, quelqu'un qui comptait pour eux et qui les aidait manifestement à écrire.
Et Bolaño disait notamment, je finis là-dessus, sur l'exil et sur l'universel, il y a ce poème de quelques lignes sur lequel je vais finir. Poète troyen, plus rien de ce qui pouvait être vôtre n'existe, ni temple, ni jardin, ni poésie. Vous êtes libre. Admirable poète troyen.
Sentenced me to 20 years of boredom for trying to change the system from within.
C'était Signe des Temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Sandrine Chaperon, avec à la technique Florent Bujon et à la réalisation Vincent Abouchard. Dans un instant, une histoire particulière.
We take Manhattan. Then we take Berlin.
guided by a signal.